Bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais aborder un thème que vous attendez depuis longtemps, vu le nombre de questions que j'ai eues à chaque fois à la fin de mon cours où je vous ai dit, j'en parlerai dans le cours numéro 7. Donc ce cours dédié à des commentaires, je vais dire, et à une présentation de différents types de contributions que la chimie peut apporter dans le cadre de l'expertise des œuvres d'art. Donc on a vu toute une série d'aspects jusqu'à présent, à la fois sur l'histoire des pigments, sur l'histoire des techniques, sur le vieillissement des matériaux, sur les instruments d'analyse. Bien sûr, c'est tous ces éléments qui sont au cœur de ce type de réflexion que je voudrais vous présenter pour certains de ces aspects aujourd'hui, sans trop vous montrer en même temps des cas de faux, parce que sinon ça peut devenir lassant. Donc je vais en même temps mélanger des réflexions sur l'histoire des techniques et sur des préoccupations d'artistes, par exemple pour montrer qu'un tableau est vieux alors qu'ils viennent de le faire, pas dans une volonté de faire un faux, mais dans une volonté de goût, ou bien également des cas où on va regarder des problèmes de faux. Donc cette question sur les différents types de supports que l'on peut utiliser dans le cadre de l'expertise, de la recherche, d'attribution sur un tableau n'est pas une question nouvelle. Bon, je vous ai mis pour plaisanter cette gravure donc de 1771, hein, donc sur un connaisseur, un expert, admirant une nuit noire, un tableau représentant une nuit noire, totalement noire, et cherchant à l'attribuer. C'est vrai que parfois, la capacité que l'on peut avoir à avoir des informations précises sur l'histoire d'une œuvre, son origine, des différents propriétaires de cette œuvre, qui permet de documenter de manière très précise donc, son attribution et son origine historique, nous laisse dans le noir. Et donc il faut à ce moment-là essayer de trouver toute une série d'informations connexes qui permettent d'aller plus loin dans cette compréhension. Donc aujourd'hui, dans le cadre de ce cours, donc je vais faire une introduction en vous présentant un cas d'un tableau de Raphaël, et puis quelques autres applications très rapidement. Et je vais m'intéresser surtout à deux problèmes, au problème du vieillissement du film peint et de ce qu'on peut en tirer comme information. Et puis une deuxième grande question, qui est celle des pigments blancs, et notamment des pigments blancs du 19e et du 20e siècle, et comment leur histoire fait qu'on peut réussir, dans certains cas, à les utiliser pour déterminer qu'une œuvre est authentique ou bien que c'est un faux flagrant récent. Et puis on verra donc en conclusion un peu les enjeux de tout cela. Donc pour commencer un petit peu cette introduction, la fraude dans l'art, volontaire, involontaire, n'est pas un problème très récent. Et on sait que depuis très longtemps, certains artistes ont cherché à fabriquer des faux ou ont cherché à duper leur clientèle en leur disant qu'une œuvre n'était pas ce qu'elle était réellement. Donc un des exemples les plus célèbres et les plus souvent commentés est celui de Michel-Ange, parce que Michel-Ange a eu sa vie racontée notamment dans deux ouvrages, l'un d'Ascanio Condivi en 1553, qui décrit donc la vie de l'artiste alors que l'artiste est encore vivant. Et puis un autre de Giorgio Vasari, qui a également bien connu Michel-Ange et qui fait toute une série de commentaires. Et ces deux auteurs nous racontent notamment comment finalement Michel-Ange a fait façonner en marbre une sculpture d'un Cupidon endormi, et qu'il avait, pour des raisons historiques, et notamment du fait qu'il devait quitter Florence suite à tous les problèmes politiques qui pouvaient exister dans la ville, il avait enterré sa sculpture. Ensuite, en la déterrant, elle avait un aspect de vieux, et un de ses amis de la famille des Médicis lui avait dit « mais vends-la comme une œuvre antique ». Ce qu'il avait fait à un cardinal à Rome, le cardinal San Giorgio, qui l'a acheté comme une œuvre antique, authentique. Puis après, Michel-Ange a dit non, mais c'est pas vrai, c'est pas une œuvre antique, c'est moi qui l'ai faite. Donc il y a eu toute une négociation sur les prix. Mais il s'avère, d'après ces différents textes, que Michel-Ange, en fait, prit l'habitude de fabriquer pour une riche clientèle de collectionneurs des fausses statues antiques. Et il ne les a peut-être pas toujours décrites comme des œuvres grecques ou romaines, mais en tout cas, il a caché le fait que c'était lui qui venait de les fabriquer. Il les avait fait vieillir artificiellement donc pour gagner plus d'argent auprès de collectionneurs qui avaient envie d'avoir ce type d'œuvre dans leur propre collection plutôt qu'à Michel-Ange. Donc, vous voyez après les connotations qu'on peut faire aujourd'hui si on pense qu'on peut retrouver une de ces statues faux antiques de Michel-Ange attribuées à Michel-Ange et les changements de valeur encore que ça peut créer autour de tous ces problèmes. Donc cette notion de faux, cette notion d'authenticité, de valeur de l'œuvre est bien entendu au cœur de ces réflexions sur l'attribution et c'est quelque chose qui s'est très très fortement développé et de nombreux concepts ont été développés dans ce thème-là dans le courant du 19e siècle où la critique d'art en vue de l'attribution ou de la désattribution d'un tableau à un artiste ou à un autre est devenue une véritable discipline et un véritable domaine de travail très important pour de nombreux historiens de l'art. Aujourd'hui, si on fait cette histoire de la fraude dans l'art, c'est vrai que l'enjeu peut-être le plus grand est lié à l'authenticité d'une œuvre qui est la qualité qui prime pour le marché de l'art et qui fait que la valeur de l'œuvre changera considérablement en fonction de son attribution de manière certaine comme authentique à un grand artiste ou bien son doute, ou bien le fait que ce soit une copie, ou bien le fait que ce soit un faux. Donc pour regarder un petit peu cette démarche de l'expertise, ici j'ai repris, en modifiant légèrement d'ailleurs, la liste des étapes qui sont décrites donc, par un expert, Beck, dans un ouvrage donc, qu'il a écrit sur le connoisseurship, donc l'expertise en crise, en 2006. Et vous voyez ici une série d'étapes, donc j'ai légèrement modifié par rapport à son texte, hein, de description visuelle, de détermination du sujet, d'évaluation de la qualité de l'œuvre. Donc une première étape esthétique. Une deuxième étape, qui est celle qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est l'ordre dans lequel il a mis ces différents points, de description technique de la peinture, du support, de sa préparation, des restaurations. Ensuite vient le travail de l'historien, avec des recherches de preuves documentaires et de reconstitution de toute l'histoire de la provenance d'un tableau grâce à des documents d'archives, des contrats, des inventaires, des catalogues. Donc, par exemple, les numéros d'inventaire au dos d'un tableau sont souvent utilisés pour tracer son histoire. Quatrième étape, c'est voir comment ce tableau s'intègre au milieu d'autres œuvres, parfois comparables, quand il s'agit de copies, de versions adaptées, parfois ce sont des gravures, et comment tout cela peut être mis en comparaison avec l'œuvre étudiée. Puis ensuite, la détermination de la date, quand aucune autre documentation n'est disponible, de quand date cette œuvre, essayer d'avoir différents types d'argumentaires permettant de préciser cela. L'analyse stylistique vient très tard dans cette réflexion, parce que c'est elle qui, en faisant des comparaisons avec d'autres artistes contemporains, du peintre présumé, va permettre réellement l'attribution. Tout le reste va être un faisceau d'éléments qui vont permettre de contribuer justement, grâce à cette analyse stylistique et ces comparaisons avec le style d'autres artistes, à trancher pour attribuer, grâce à ces comparaisons, l'œuvre à tel peintre. Et ensuite, la dernière étape très importante, et Beck la souligne parce que souvent elle n'est pas toujours existante aujourd'hui dans de nombreux dossiers récents, c'est la recherche d'un consensus dans la communauté, que tous les experts arrivent à une décision commune et de considérer que tous ont suffisamment d'informations pour attribuer telle peinture à tel artiste, sans qu'il y ait trop de contestations, ou même idéalement, sans qu'il y ait de contestations du tout. Donc si on regarde cela, donc, le rôle de la chimie donc, était le deuxième point, mais on peut le voir en analysant des matériaux constitutifs de l'œuvre, les pigments, donc l'histoire des pigments par exemple va avoir de l'importance, en analysant les techniques de l'artiste. Ce point-là va être aussi très important parce qu'à certaines périodes, certains peintres ont utilisé certaines pratiques. Vous vous souvenez par exemple des glacis de Léonard de Vinci que je vous ai décrit. Et puis après, la description du processus de création tel qu'il peut être observé par l'imagerie scientifique, donc notamment la présence de changements de composition, de repentir, qui sont autant de témoignages du travail effectué par l'artiste pour créer son œuvre. Il ne faut pas oublier également la contribution de ces méthodes à un constat d'état de conservation de l'œuvre, notamment des parties restaurer dans une œuvre, qui est toujours quelque chose de très important pour documenter l'ancienneté de cette œuvre par l'histoire de la restauration, et puis également pour documenter l'état de préservation de cette œuvre. Certaines sont parfois incroyablement endommagées, tellement endommagées que d'autres types d'approches, notamment stylistiques, peuvent être sujettes à caution, puisque qu'est-ce qu'on va regarder comme style ? Est-ce que c'est celui du restaurateur ou est-ce que c'est celui du peintre, quand 70% de l'œuvre ont été repeints ? Et puis dans certains cas, je n'en parlerai pas aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps de tout dire, c'est la datation absolue lorsque cela est possible. La datation absolue par certaines méthodes, quand il s'agit de céramique, on a une méthode qui est la thermoluminescence, la méthode du carbone 14 ou du radiocarbone est utile par exemple pour un panneau de bois utilisé pour faire une peinture, mais la dendrochronologie qui étudie les cernes de croissance du bois est une autre approche plus fréquemment utilisée que le carbone 14 pour essayer de dater le support de certaines œuvres. Donc j'ai commencé par un premier cas qui a été largement décrit ces dernières années par différents types de travaux, notamment au Centre de recherche et de restauration des musées de France par Bruno Motin, et qui est ce tableau du musée Condé de Chantilly, un tableau de Raphaël, la Madone de Lorette. Donc c'est un tableau qui est intéressant parce que son attribution à l'artiste Raphaël a été longtemps un sujet de débat. Jusqu'en 1970, ce tableau était considéré comme une copie réalisée dans l'atelier de Raphaël par un de ses plus proches collaborateurs, Giovanni, il n'y a pas un B, c'est un V, Francesco Penny. Et c'est en 1970 où un historien de l'art anglais, Cecil Gould, a réussi à reconstituer le parcours de ce tableau grâce à des numéros d'inventaire qu'il pouvait lire facilement, comme tout le monde d'ailleurs, au revers de ce tableau, mais aussi grâce à des comparaisons avec une autre œuvre de Raphaël, qui est le portrait de Jules II, que je vous ai mis ici, et qui est conservé, lui, à la National Gallery de Londres. Et en fait, grâce à ces numéros d'inventaire, il a été possible de retrouver une collection ancienne où ces deux tableaux étaient présents, et de là, réussir, par toute une série d'arguments, à réattribuer de manière définitive, pour les experts de Raphaël, ce tableau comme étant fait de la main du maître. Donc c'est une information qui est intéressante et qui a pu être complétée, reprise par toute une série de démarches scientifiques qui sont venues postérieurement à cette réattribution, mais qui vont exactement dans le même sens. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme type de renseignement? On peut avoir déjà la radiographie, vous voyez ici de ce tableau. Donc radiographie où vous voyez donc les personnages, hein, le Christ, la Vierge, et puis derrière vous avez Joseph qui est présent, que vous n'arrivez pas à voir sur la radiographie elle-même, vous voyez une grande zone beaucoup plus claire derrière, c'est parce qu'en fait ce tableau avait dans un premier temps été peint avec une ouverture vers l'extérieur, avec un paysage qui était représenté derrière la Vierge et l'enfant Jésus. C'est une information intéressante, ça veut dire qu'on a eu un changement de composition important dans cette œuvre, et Joseph n'est réapparu qu'après. Donc ça peut être comparé, et là toujours dans ces démarches d'expertise, avec d'autres œuvres de Raphaël, notamment ces deux madones, l'une de Londres et puis l'autre du musée du Louvre, où vous voyez très bien ces ouvertures derrière la Vierge qui vous permettent de voir ce paysage. Et on peut imaginer qu'un tel type de paysage pouvait être présent derrière la Madone de Lorette conservée au musée Condé. Donc ça, c'est une information qui est intéressante. Aussi, la radiographie, c'est toujours intéressant dans les constats d'état. Donc, ce n'est pas la radiographie qui nous le montre, c'est d'autres études, mais c'est du bois de peuplier. Et en fait, on a trois planches, hein, vous voyez les jonctions des trois planches. Bon, tout ça sont des techniques assez classiques de cette époque-là qui ne posent aucun problème pour une attribution. Raphaël peignait sur des planches de bois, notamment de peuplier, autour de l'an 1508-1510, date présumée de cette peinture. Ce qui est plus intéressant encore, c'est une autre approche par réflectographie infrarouge. Donc, vous vous souvenez, les infrarouges peuvent traverser les couches de peinture et sont absorbés par certains matériaux, notamment le noir de carbone. Et on peut ainsi, par cette méthode, réussir à voir des dessins sous-jacents à la peinture apparaître de manière parfois extrêmement nette. Donc, c'est ce que vous voyez ici avec les différents types de traits qui apparaissent sur cette image. Et en fait, où il a été possible de décrire deux types d'ailleurs de dessins préparatoires. L'un qui est très fin et saccadé, effectué sans doute avec une matière sèche, et puis un autre qui est plus souple, plus continu, notamment pour le vêtement, et qui devait être étendu, effectué à l'aide d'un pinceau. Donc là, on a des descriptions, là aussi, à mettre en comparaison avec les autres œuvres que je vous ai montrées, et d'autres encore de l'artiste. Tout cela est fort classique dans son cas. Mais de manière aussi très intéressante, vous voyez apparaître d'autres aspects, notamment la présence d'un grand rideau, dont vous voyez des pans. Alors là, vous avez un pan noué, ici, et puis vous avez un autre pan qui tombe hein, derrière la main du Christ, et puis vous avez la fin du rideau par ici. Et vous voyez donc que ce tableau, aujourd'hui on n'arrive plus à voir ce rideau vert à cause de phénomènes d'altération, mais avait tout un rideau vert sur le plan arrière qui était extrêmement bien représenté. Il faut regarder un petit peu plus dans le détail pour avoir encore d'autres informations sur ce processus de création. Et donc là vous voyez deux autres détails, de la main de la Vierge ici telle que Raphaël l'a peinte, et puis de la réflectographie infrarouge. Et vous remarquez par exemple que les ongles sur la main, tels qu'ils ont été dessinés donc au noir de carbone avant de peindre, n'ont pas été réalisés en peinture exactement de la même manière. Vous remarquez également que le geste et la position du pouce a également légèrement bougé entre le dessin initial et puis la réalisation par la matière picturale. Donc c'est intéressant de nouveau parce que ça nous montre ce travail fait par l'artiste et la manière dont l'état final de l'œuvre va changer par rapport à son dessin de conception. Donc si on compare cette œuvre avec d'autres types de tableaux qui sont des copies de cette œuvre-là, bien entendu, vous n'avez pas ce genre de changement de composition, de détail, puisque le copiste ne pouvait pas savoir que Raphaël avait commencé à imaginer une main dans une position avant de légèrement bouger un doigt pour que le geste soit peut-être plus agréable, plus souple. Vous avez le même type de phénomène ici. Sur le pied de l'enfant Jésus, vous voyez ici la peinture. En fait, si on reprend la peinture ici, vous avez le talon qui apparaît ici, et puis le pied tel qu'il est mis va continuer dans cette position-là. Et donc, vous voyez ici le gros orteil à ce niveau-là. Donc, vous voyez un changement de composition important, puisqu'au début, le pied avait un autre mouvement qui descendait plus vers le bas, peut-être un peu moins fort, un peu moins appuyé sur le lit, sur le drap du lit où est présent ce pied. Donc, vous avez là aussi donc, un petit changement de composition qui est très significatif dans ce genre de réflexion. Et donc tout cela permet de comparer ensuite avec d'autres types d'œuvres, notamment des dessins préparatoires qui ont été faits par Raphaël, et un d'entre eux qui est présent au Musée des Beaux-Arts de Lille, où vous voyez donc dans un détail de ce dessin préparatoire, vous voyez le Christ et vous voyez la position de son pied ici, qui correspond exactement au premier dessin fait par Raphaël, mais pas à l'état final de la peinture. Donc de nouveau, on a tout ce travail fait par l'artiste, et donc cette attribution à Raphaël est encore plus encouragée grâce à ce type de détails révélés par l'imagerie scientifique. On peut regarder encore plus dans le détail pour se rendre compte que ce changement a été effectué très tardivement, puisque là, vous avez de nouveau la réflectographie infrarouge, et puis ici, vous avez une radiographie. Donc, vous voyez de nouveau le pied, tel qu'il est peint aujourd'hui. Et puis, vous remarquez ici une ligne noire, ici, qui démontre qu'au début, Raphaël avait réalisé la peinture du drap en blanc en laissant en réserve le pied, et puis qu'ensuite il s'est ravisé dans cette position du pied, et donc il a complété de matière blanche ici pour combler le trou avec ce drap et réaliser finalement la peinture. Donc vous voyez tous ces petits détails, hein, c'est une juxtaposition de tout petits détails qui nous montrent ce processus de création et qui vont nous permettre également de regarder comment le paysage du fond sur cette peinture, je vais revenir un petit peu en arrière, a pu être représenté ici, et comment Saint-Joseph a pu être représenté. Donc vous voyez l'ouverture derrière, vous voyez que Joseph ici est à peine visible dans les infrarouges, qui montre une peinture assez fine, et vous remarquez également les différents tracés qui correspondent au paysage derrière. Donc là, c'est toute une série d'imageries scientifiques. Ensuite, on peut analyser les matériaux, analyser les pigments et se rendre compte d'une certaine variété de pigments présents sur ces tableaux, variété de pigments qui sont tout à fait classiques, des pigments utilisés au début du XVIe siècle à Florence. Donc on a déjà eu l'occasion de les voir dans le cours sur Léonard de Vinci et Raphaël. Je n'insisterai pas. Je voudrais juste vous montrer deux échantillons qui ont été prélevés et étudiés par les collègues du Centre de recherche et de restauration des musées de France. L'un, c'est une coupe dans une zone de carnation, comme vous pouvez la voir ici. Et puis l'autre, c'est une coupe de la barbe de Saint-Joseph. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer dans ces deux cas-là, dans la coupe de carnation? On peut voir la technique du peintre, je vous l'ai déjà décrite, avec une couche d'impression, essentiellement blanche, mais qui contient aussi un petit peu de petits grains rouges, vermillons, donc un fond qui devait être légèrement rosé, que vous voyez ici. Et puis au-dessus, une couche rose, qui contient beaucoup de vermillons, et puis qui contient également un peu de pigment laqué. Et puis au-dessus, vous avez une couche brune, qui apparaît au-dessus, avec des pigments laqués, du vert pilé et du blanc de plomb présents à l'intérieur de cette couche brune, puis sans doute également une ocre. Et donc vous avez ici, finalement, une stratigraphie qui est intéressante, nous montrant les différents ingrédients utilisés par le peintre. Si on regarde dans le visage de Saint-Joseph et la coupe de la barbe de Saint-Joseph, donc ici vous avez un détail en lumière visible, la même chose en lumière ultraviolette pour la seconde partie de cette coupe, et vous voyez une superposition donc, qui, bien sûr, va prendre en compte les deux étapes du tableau. D'abord la représentation du paysage et ensuite la représentation de Joseph. Et donc vous avez de nouveau une couche blanche de préparation, on voit très mal, mais il y a quelques grains bleus dans cette couche au sommet, puisque c'est un fond de ciel bleu. Et puis après vous avez une couche brune, une couche rose, et puis encore une couche très riche en matière organique présente à la surface. Et donc là aussi on a une superposition qui est intéressante, et on va retrouver dans la couche présente pour la barbe de Saint-Joseph, on va retrouver des matériaux qui sont les mêmes que ceux présents dans les carnations sur le reste du tableau, et notamment la présence d'un pigment laqué et de vert pilé. Donc des choses encore très intéressantes et très pertinentes dans ce type de réflexion, puisqu'on se rend compte que les matériaux utilisés pour le repeint de la représentation de Saint-Joseph sont les mêmes que ceux qui ont été utilisés pour le reste du tableau. Et donc de là, ça permet d'avoir des arguments qui vont dans le sens de l'expert, donc de Cécile Gould, qui lui avait considéré par le style, par la facture, que le Saint-Joseph avait pu être réalisé par Raphaël lui-même, et que Raphaël avait lui-même voulu faire une reprise de son tableau en changeant sa composition et en rajoutant l'image de Joseph dans l'arrière-plan à la place de ce paysage. Ici, les données analytiques nous montrent qu'il a été réalisé de la même manière, et avec certains éléments comme une association d'un pigment laqué et de vert pilé, qui sont des éléments que l'on connaît chez Raphaël, que l'on connaît chez quelques rares autres auteurs, et notamment, c'est une technique très classique chez le Pérugin, donc qui était le maître de Raphaël. Donc on se rend compte par ces arguments-là qu'on a des éléments nous permettant d'aller encore davantage dans l'idée que ce tableau a été remanié en profondeur par l'artiste lui-même et qu'a choisi de faire ce changement de composition lui-même pour donner une autre image à son tableau. On peut continuer en regardant d'autres types de cas et d'autres types de méthodes. C'est l'occasion de revenir sur l'une d'entre elles, qui est l'autoradiographie, dont je vous ai parlé également dans un de ces cours sur les grands instruments. Donc l'autoradiographie qui consiste à bombarder le tableau avec des neutrons provenant d'un petit réacteur nucléaire, donc ce sont des mesures faites à Berlin. Et donc quand on va avoir un neutron qui va interagir avec le noyau d'un atome, on va fabriquer un atome radioactif qui va se désintégrer. Alors par exemple, un des éléments chimiques qui se forme, c'est le manganèse 56, et ce manganèse 56, en 2,6 heures, enfin a une durée de demi-vie de 2,6 heures, donc se désintègre rapidement. Et si on fait une image de cette désintégration de cet élément chimique, donc de manganèse, on peut voir apparaître des choses qui ne sont pas présentes sur le tableau lui-même. Donc c'est ce qui a été surcoloré ici en jaune, et vous voyez apparaître en fait deux troncs d'arbres supplémentaires. Donc, c'est un cas qui est intéressant sur ce tableau, qui est un tableau de Nicolas Poussin, donc Armide surprenant Renaud endormi, donc une scène liée à une mythologie associée au siège de Jérusalem par les croisés, et la magicienne en fait, qui doit tuer le chevalier Renaud, mais qui en tombe amoureuse et qui l'enlève, c'est ce qui est présent sur cette scène, donc avec un paysage qui n'est pas un paysage de Jérusalem, comme d'habitude, mais un paysage que l'artiste qui a représenté ce tableau avait voulu avec plus d'arbres dans la forêt qu'il n'y a dans l'état visible aujourd'hui. Donc c'est une information qui est intéressante parce que ce tableau était supposé pouvant être un original ou bien considéré par d'autres experts comme étant la copie d'un original perdu effectué par Nicolas Poussin. Donc de nouveau, le fait qu'on retrouve un repentir aussi important dans ce tableau démontre qu'il ne s'agit pas de la copie d'un original perdu, ou très probablement en tout cas, puisque ça démontre que un important repentir a été effectué et donc on est très probablement en présence d'une œuvre originelle et donc d'une œuvre faite par Nicolas Poussin. Donc voilà comment on arrive avec ce type de détails d'imagerie à avoir des renseignements intéressants. Il existe d'autres approches qui sont utilisées, je ne vais pas toutes les lister parce qu'il y en a un grand nombre, j'en ai choisi encore deux d'entre elles pour continuer cette introduction. Une autre approche est plus liée à la gestuelle d'un peintre et à essayer de regarder la manière dont un artiste va manier la matière à sa façon dans un style graphique tout à fait particulier et qu'on peut tenter d'attribuer à un peintre soit par comparaison purement optique, soit maintenant par des traitements mathématiques tels qu'ils sont proposés par différents chercheurs américains et qui cherchent à décrire certains tableaux, notamment de Van Gogh, comme une sorte d'écriture qu'on peut décoder à l'aide de formules mathématiques. Donc là, vous avez un exemple, donc Mademoiselle Gachet, ici, donc dans son jardin Auvers-sur-Oise, peinture du musée d'Orsay, qui, en lumière rasante, vous voyez, vous donne un aspect très particulier, avec ses surépaisseurs extrêmement importantes et qui correspondent au style bien particulier de Vincent Van Gogh, notamment à cette époque de sa vie, à la fin de sa vie. Donc comment on fait cette photographie en lumière rasante? C'est juste en éclairant avec un spot, placé à 15 degrés environ, de la surface du tableau, en éclairant le tableau, et comme le soir, le soleil fait ressortir les irrégularités dans un paysage, on fait ressortir les irrégularités de surface à la surface de ce tableau. Et donc comme ça, on arrive à voir la facture du peintre, et on arrive à voir des éléments qui peuvent être considérés comme déterminants dans cette écriture graphique qui existe chez tel ou tel artiste, et quand on cherche à comparer une œuvre authentique à un faux, ce sont des éléments qui peuvent être pris en compte. Il existe d'autres approches, comme l'étude de la toile, qui sont aussi maintenant de plus en plus utilisés, peu chez nous en France pour le moment, bien davantage aux États-Unis, et qui sont cette fois-ci pas des méthodes chimiques, mais des méthodes plutôt mathématiques et physiques, et qui vont permettre d'essayer de regarder si plusieurs tableaux ont été peints sur des morceaux de toile provenant d'un même rouleau. Donc c'est une idée qui peut paraître bizarre, mais en fait, quand on va produire un rouleau de toile à peindre, on va en produire un grand rouleau d'une certaine longueur, et ce rouleau sera découpé en petits morceaux, en fonction de ce que l'artiste souhaitera avoir par rapport à la taille de l'œuvre qu'il souhaite obtenir à la fin de son projet. Donc, bien entendu, vous avez dans ces rouleaux une trame avec toute une série de fils qui sont plus ou moins régulièrement répartis. Et donc, on peut réussir à étudier la régularité du tissage pour essayer de trouver des éléments marquants de problèmes de tissage, on va dire, ou des irrégularités de tissage qui peuvent être déterminants dans la reconstitution de différents tableaux comme appartenant à un même rouleau. Vous allez voir, je vais vous montrer un exemple dans un instant. Donc on peut avoir un tableau, on va en faire une radiographie. Cette radiographie va permettre d'avoir une très belle image, très contrastée, des fils, en tout cas dans certains cas, des fils correspondant à la trame de la toile. Puis ensuite, des traitements mathématiques vont être effectués, donc c'est ce qu'on appelle notamment une transformation de Fourier en deux dimensions. Puis après, différents types de méthodes vont permettre de calculer la densité de fils et de faire une représentation finalement de la densité de fils, donc de ces irrégularités finalement de fils qui sont tassés ou de fils qui sont un peu plus distendus, sur des graphiques qui vont permettre donc de représenter cette toile en deux dimensions, mais modulée par des couleurs qui correspondent à ces densités de fils qui changent. Et donc quand vous avez cet élément-là, qui correspond à une image de ce type-là, ben vous allez pouvoir comparer cet élément-là à l'image d'un autre tableau, et ainsi de suite pour faire des comparaisons. Alors cet effet, avec beaucoup de succès, dans le cas de différentes œuvres, notamment de Vermeer. Là, je voudrais vous montrer un exemple de nouveau sur Nicolas Poussin pour garder un peu d'homogénéité dans mon exposé. Un travail qui est publié dans les actes d'un colloque qui s'est tenu il y a quelques mois aux États-Unis, et donc de trois œuvres qui sont trois œuvres qui peuvent appartenir à une série réalisée par Nicolas Poussin de quatre bacchanales et qui avait été commandée par le cardinal Richelieu pour son château. Mais on sait historiquement que cette série a eu un très grand succès et que ce succès a conduit à la production de copies juste après les peintures originales, donc pas par Poussin, par d'autres peintres. Et certaines de ces copies sont dans des collections très importantes à travers le monde. Donc certaines œuvres sont attribuées à Nicolas Poussin de manière certaine, comme le Triomphe de Pan que vous avez ici à la National Gallery de Londres, ou bien dans le même musée, le Triomphe de Silène que vous avez aussi ici. Alors pardon, les tableaux sont retournés un peu n'importe comment, c'est parce que je vais m'intéresser surtout à la toile plus qu'à l'image, et ses collègues ont cherché à s'intéresser à la toile pour comparer à une autre œuvre dont certains experts ont des doutes sur son attribution à Nicolas Poussin, qui est le Triomphe de Bacchus que vous avez ici et qui est au musée d'art de Kansas City aux États-Unis. Donc à l'aide de ces traitements mathématiques sur les densités de fils dans la toile utilisée pour ces différents tableaux, on peut faire donc des images de ces tableaux, comme vous avez ici, se rendre compte de défauts, de distorsions dans la toile qui sont totalement repérables et totalement alignables les unes par rapport aux autres sur ces trois toiles. Donc, ce qui montre que les trois toiles utilisées pour peindre ces trois tableaux proviennent exactement du même rouleau de peinture. Historiquement, c'est crédible, puisque Nicolas Poussin avait une commande pour faire ces tableaux-là. Donc le fait qu'il ait commandé à son marchand de matériaux pour peindre des toiles d'un seul rouleau est relativement logique. On n'est pas à 10 ou 20 ans d'écart. Mais ça a une information très importante, c'est que la manière dont toutes ces irrégularités sont présentes sur ce tableau de Kansas City étant tellement similaires aux deux autres tableaux attribués à Nicolas Poussin, on peut penser avec plus de certitude, mais ce n'est qu'un élément dans la contribution à l'expertise, que cette toile a bien été réalisée par Nicolas Poussin en même temps que les autres. Et donc c'est bien une œuvre authentique de l'artiste. Donc actuellement, le débat n'est pas encore clos. Il y a encore des discussions sur l'attribution certaine ou non de ce tableau à Nicolas Poussin, ou bien s'il s'agit d'une copie. Mais vous voyez la puissance de ce type de méthode mathématique qui permettent vraiment de montrer que ces toiles viennent du même rouleau initial. Donc voici donc des différents cas. Maintenant, on va regarder deux exemples différents. D'abord, le vieillissement d'un film peint, et puis ensuite, les pigments blancs. Donc le vieillissement d'un film peint est sans doute la chose la plus cruciale pour un faussaire qui veut délibérément vendre un tableau comme ancien. Si un faussaire cherche à peindre une œuvre aujourd'hui, elle n'aura pas forcément tous les vieillissements tels qu'on peut les voir sur des œuvres anciennes. Donc je continue cette fois-ci sur Vermeer, avec la jeune fille à la perle, où vous voyez apparaître tout un réseau de craquelures extrêmement important, ici qu'on voit très nettement sur le visage, avec différents faciès, différentes formes qui peuvent être étudiées dans le détail. Donc ces craquelures vont apparaître et vont être une sorte d'empreinte qui correspond à l'histoire du tableau, à l'histoire de toutes les contraintes mécaniques qui se sont accumulées au cours du temps et auxquelles la matière n'a pas pu résister. Et donc la peinture, à ce moment-là, va se craqueler, se casser, se fractionner de façon à contrebalancer, finalement, les tensions qui sont présentes à l'intérieur du film peint. Donc tout cela peut être dû à différents paramètres, à des paramètres de vieillissement de certains pigments et puis également au séchage de la matière picturale et en particulier du liant. Quand le liant va sécher, ses propriétés vont changer et ça peut induire des tensions et des fragilisations de la couche picturale. Et puis ça peut être dû aussi à toute une série de sollicitations mécaniques. Quand une toile va être tendue sur un cadre, on va exercer toute une série de forces qui vont pouvoir induire des ruptures dans le film peint. Parfois, à une époque, on avait l'habitude de rouler les toiles pour les faire voyager. Quand on va rouler la toile, il faut savoir encore faire correctement, mais ça va créer là aussi toute une série de tensions qui peuvent induire des craquelures. Vous avez d'autres cas, ce sont des chocs. Et un choc, parfois violent, ne déchirera pas forcément la toile, mais va là aussi créer des ruptures dans le film peint. Puis vous avez aussi des tensions entre les couches de peinture elles-mêmes et puis entre les peintures et le vernis qui là aussi vont créer d'autres types de forces qui peuvent conduire à des ruptures du film peint. Donc vous avez en fait un grand nombre de paramètres et aujourd'hui on est très très loin de comprendre toutes les variétés de figures de craquelures qu'on peut observer sur la peinture et de les expliquer par de la physico-chimie claire. Ça dépend de beaucoup de paramètres, notamment de la composition des couches, de leur épaisseur, de l'adhésion aux autres couches, etc. Du support qui va lui aussi plus ou moins jouer un rôle dans tous ces phénomènes. Donc là je vous ai mis deux articles, l'un d'un physicien dans Les reflets de la physique qui décrit un peu cette zoologie de ces couches de craquelures, et puis Spike Bucklow qui est au Hamilton Carr Institute de Cambridge et qui a été aussi un des précurseurs dans la description de tous ces faciès. Et notamment voici quelques faciès dans un des articles de Spike Bucklow. Vous voyez ici différents types de craquelures, de séchage. Donc vous voyez qu'il peut avoir différents types de formes selon la nature des techniques picturales. Et puis ici vous voyez ces craquelures qui partent de manière radiale et qui sont caractéristiques de craquelures dues à un choc qui est survenu perpendiculairement à la toile, donc c'est-à-dire à un coup donné dans la toile elle-même. Bon, on pourrait passer beaucoup de temps à vous décrire tous ces faciès. Comme je n'arrive pas à les expliquer, personne n'arrive à les expliquer très clairement aujourd'hui, on va rester purement qualitatif, mais la reconnaissance de ces réseaux est un argument clé pour essayer de voir si une peinture a vieilli sereinement avec le temps ou bien si elle a subi des traitements violents qui conduisent à d'autres formes de craquelure du film pictural. Alors, je vous ai montré la jeune fille à la perle, c'était pour en arriver aussi à cette image, qui est un travail qui a été fait au moment de la restauration de ce tableau. Vous voyez d'abord l'ensemble des zones endommagées sur ce tableau, hein, qui apparaissent en blanc et qui ont été restaurées, qui ont été repeints pour l'état actuel que vous voyez de la peinture. Et puis à côté, vous avez un relevé très précis du réseau de craquelures sur ce visage de la jeune fille à la perle, avec toute une série de faciès. Des faciès issus de chocs, là, il n'y en a pas, mais on a toute une série de craquelures de vieillissement, de craquelures dues au séchage de la couche de préparation qui donne d'autres types de faciès, donc c'est les zones en B, ici. Je ne vais pas insister sur tout le détail, mais également de craquelures issues de la mise sous tension. Ce sont les craquelures que vous voyez apparaître dans les angles du tableau ici ou par ici et qui sont issues de la mise sous tension sur le châssis du tableau, mise sous tension de la toile. Donc vous voyez des choses extrêmement compliquées et qui nous permettent d'avoir là aussi des renseignements quand on va chercher à comparer une peinture de Vermeer avec une autre. Alors je vous parle de Vermeer pour parler quand même aussi d'un faussaire associé à Vermeer et c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple qui est Anne van Meegeren et qui est un faussaire particulièrement célèbre parce que son histoire est assez extraordinaire puisque c'est un faussaire qui a produit, on considère 14 faux tableaux, donc de Vermeer et de Pieter de Hoor, et qui a réalisé ces tableaux dans les années 1930-1940, et qui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, a été arrêté parce qu'on avait découvert dans les collections de Göring, du nazi Göring, un tableau vendu par Van Meegeren. Et donc il a été arrêté, accusé de trahison pour avoir vendu un tableau de Vermeer aux ennemis allemands, et pour ne pas être condamné à une lourde peine, peut-être à mort, il a dit « Non, non, c'est pas vrai, c'est moi qui ai fait ce tableau ». Ce que les experts ont eu du mal à croire, et il a été obligé de démontrer qu'il avait lui-même réalisé ce faux tableau qu'il avait vendu à Göring, ainsi que d'autres faux tableaux qu'il avait vendus à certains des plus grands musées des Pays-Bas. Donc c'est une histoire qui est assez amusante, parce qu'à la fin, Vermeer est devenu un héros national comme l'homme qui a joué un mauvais tour à Göring. Donc on a un renversement de ce jeu du faussaire. Si on regarde un petit peu plus son existence, sa vie, donc il a commencé son travail de faussaire en 1922, puisqu'il a raconté un petit peu tout cela. Il a commencé son travail de faussaire en 1922 en se rendant compte du problème de faire des faux qui devaient paraître vieux. Et il a raconté avoir passé 4 années pour tester des techniques qui donnent l'apparence de l'ancien à une peinture nouvelle. Donc il a fait toute une recherche dans ce domaine-là. Et donc ensuite, il a créé toute une série d'œuvres. Et donc au moment de son procès, il a dit que déçu de ne recevoir aucune reconnaissance des artistes et des critiques, j'ai décidé de prouver ma valeur en tant que peintre en faisant une toile parfaite du XVIIe siècle. Et donc il a commencé à peindre un faux Vermeer de plus, et il s'est arrêté juste avant de le terminer, puisqu'il apprenait à ce moment-là par ses avocats que s'il terminait ce tableau, il allait être accusé de faussaire. Donc il a juste fait sa démonstration sans arriver au bout de l'histoire. Donc ça vous montre un petit peu toute la complexité qui peut exister. Toute une série d'analyses scientifiques ont été faites également pour essayer de vérifier que Van Meegeren avait bien fait ses tableaux avec des erreurs techniques, de choses qui n'existaient pas à l'époque de Vermeer. Ça a été le cas de différents types de matériaux, donc des études par fluorescence aux ultraviolets, par infrarouge, ont été menées pour révéler des repentirs, des surpeints, même des restaurations, parce que tout ce que je vous ai dit, Van Meegeren le savait, et donc il a fait des repentirs dans son dessin préparatoire, il a fait des surpeints, il a endommagé sa toile, restauré sa toile, de façon à lui donner réellement l'aspect du vieux. Et des tests d'analyse chimique ont été effectués, alors notamment un d'entre eux, qui a été repris également, sur ce tableau-là, donc vous voyez un détail ici, une analyse ici faite par fluorescence, spectrométrie de fluorescence des rayons X, vous montre la présence très importante de cobalt dans le pigment bleu, donc d'un pigment bleu de cobalt, qui est un pigment qui apparaît au début du XIXe siècle et qui n'a pas pu être utilisé par Vermeer. Donc la présence de ce pigment aurait suffi à dire que ce tableau était un faux. En fait, l'histoire s'est faite dans l'autre sens, Vermeer a voulu démontrer que ces tableaux étaient des faux et l'analyse chimique a permis juste de vérifier qu'il avait fait certaines erreurs dans le choix de ses matériaux, et notamment là, il aurait dû utiliser du lapis lazuli naturel et pas du bleu de cobalt. Mais encore plus intéressant est la présence d'un matériau pour rendre son tableau vieux et sec tout de suite. C'est-à-dire qu'il s'est posé la question en 1922 de comment réussir à donner l'apparence de l'ancien à une peinture toute neuve. Donc si on peint avec une peinture à l'huile, l'huile va mettre beaucoup de temps à sécher, des durées de séchage qui sont de quelques dizaines d'années, souvent, pour un film peint complet, et donc va également se craqueler au bout d'un très long temps, On parle souvent de 50 ans, 100 ans, 200 ans pour arriver aux formations des réseaux de craquelures que l'on peut observer dans ces peintures anciennes. Donc il s'est dit, je ne peux pas peindre avec de l'huile de manière normale. Et donc il a recherché une méthode. Il a recherché une méthode pour utiliser un autre liant, un liant polymère, un liant de résine, qui allait permettre d'être très dur rapidement, se craqueler facilement, et il a été jusqu'à assombrir les craquelures en peignant avec du noir les craquelures de façon à leur donner un aspect particulièrement ancien. Et donc ce liant a été étudié, caractérisé chimiquement, étudié dans son détail, et ça a permis de voir que c'était une résine très particulière qui a été utilisée par Van Meegeren, donc qu'on appelle une résine phénolformaldéhyde, et qui va permettre de fabriquer un film polymère solide, dur et cassant. Donc quel est le principe de cette résine? C'est de prendre donc deux constituants, le phénol et le formaldéhyde, que vous faites réagir ensemble. Vous formez une molécule, que vous voyez ici, qu'on appelle le précurseur du polymère. Et ensuite, cette molécule, quand elle sera chauffée, va réagir avec d'autres molécules équivalentes pour former en trois dimensions un grand réseau de ces molécules, telles que vous voyez ici, donc qui prend l'espace en trois dimensions, donc qui va vous faire un film solide, rigide. C'est un polymère dur. En fait, ce polymère est connu aujourd'hui sous le nom de bakélite, qui est son nom commercial. Donc c'est à partir de ces petits ingrédients préparés qu'on a le précurseur, qu'on mélangera au pigment, et ensuite en chauffant, parce qu'il faut chauffer, on va former ce réseau en trois dimensions qui va donner, donc après cuisson, un film très dur. Et Van Meegeren, alors, passera sa toile sous un rouleau de façon à créer un jeu de craquelure en cassant ce film de bakélite qui s'est formé à la surface de sa peinture. Donc il a trouvé une astuce très jolie pour réussir à le faire. Donc ça, c'est la manière dont on peut l'interpréter à partir des données historiques qu'on a. D'autres collègues ont cherché à analyser ce type de résine pour en avoir des informations, pour avoir des informations précises sur cette nature. Donc je vous ai montré, hein, on part de phénol qu'on fait réagir avec cette molécule, on fabrique ça. Donc si on prélève des matériaux donc issus de l'atelier de Van Meegeren, on a retrouvé des morceaux de résine, on a retrouvé le liant formulé et sur des peintures également récupérées sur des tableaux. On peut effectuer une méthode qu'on appelle la chromatographie en phase gazeuse, où on brûlera l'échantillon de façon à libérer des petites molécules. Et cette chromatographie en phase gazeuse permettra, au cours du temps, de voir apparaître, donc en fait le début de la chromatographie est ici, de voir apparaître des pics, comme vous voyez là, toute une série de pics qui apparaissent, et chacun pourra être attribué à une molécule particulière. Vous voyez par exemple ici, la molécule qui arrivera ici correspondra à ce groupement-là, à cette molécule-là qu'on appelle le phénol et qui est présent à l'origine du polymère. Mais par la combustion, par le chauffage, il sera de nouveau libéré. Et puis après, vous en avez d'autres, vous avez l'ortho et le paracrésol qui vont apparaître et qui sont cette petite molécule, donc vous voyez qui est très proche du précurseur de la bakélite qui est ce morceau-là. Et puis après, vous en avez encore une autre dont son nom est ici, donc vous voyez également sa formule chimique et qui est encore très proche de ce précurseur. En fait, en chauffant, on recasse le polymère et on arrive par cette méthode de chromatographie à voir les différents morceaux et donc à démontrer que c'est bien un polymère de nature équivalente à la bakélite que Van Meegeren a utilisé comme liant pour sa peinture et donc d'expliquer complètement son histoire. C'est une histoire très, très spécifique, hein, qui est très intéressante. Tous les faussaires n'ont pas eu la même idée d'utiliser le même type de polymère, le même type de formulation de liant pour faire cela. On peut aussi imaginer d'autres choses. Et vous avez également aujourd'hui des vernis qui existent et qui sont commercialement vendus pour aider la peinture à se craqueler, puisqu'on peut aussi chercher, pas dans un but de faire un faux, mais dans un but de faire un tableau qui peut paraître ancien, on peut aussi chercher à faire ce genre de choses. Mais là, ça ne sera pas les mêmes types de matériaux et ça sera par les interactions entre les couches picturales que l'on aura ce type de phénomène. Donc là, je vous ai présenté un cas de faussaire volontaire. Je voudrais parler d'un autre cas que moi j'aime beaucoup, qu'on n'a pas encore complètement compris non plus du niveau physico-chimique, et qui est l'utilisation d'un matériau un peu inhabituel à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle pour que les tableaux apparaissent rapidement plus vieux. Donc il s'agit d'une matière qui est du bitume de Judée, et donc qui est un hydrocarbure issu du pétrole, et qui était très apprécié par les peintres parce qu'il permettait d'avoir une peinture avec une tonalité roux sombre, qui était très intéressante pour faire des sous-couches et également pour faire des glacis. Et donc de nombreux peintres, dont Ingres, Géricault, Courbet, ont utilisé en très grande quantité, enfin très fréquemment en tout cas, ce bitume de Judée. Et donc là, vous avez une petite lettre de Delacroix à son marchand de couleurs Arrault et qui lui demande de lui fournir 4 vessies de bitume. Et là, vous avez 4 vessies de bitume. Et puis après, de la terre de Cassel, du jaune de Naples, de la laque jaune et du cobalt. Donc quelques pigments demandés par Delacroix. Si on regarde d'autres documents de Delacroix, notamment ses carnets en 1850, il nous explique que pour faire la demi-teinte de la chair de Saint-Sébastien, dans un des tableaux de Saint-Sébastien, il utilise du bitume, du blanc, de la laque, de la terre verte, un peu de jaune brillant. Et parfois, il rehausse d'un peu de bitume, donc sans doute pour faire des glacis. Vous avez d'autres types de textes également. Vous avez une autre lettre de James McNeill Whistler à Fantin-la-Tour qui explique qu'un de ses amis peintres, qui s'appelle Gudin, le regarde peindre, alors je cite, « avec une pitié suprême. Et il m'a dit que je ne pourrais jamais réussir parce que je ne fais pas mes vagues avec du bitume. » Et puis, il met entre parenthèses, « tous les vents d'air, trois petits points, faisaient leurs vagues avec du bitume. » Donc c'est un phénomène extrêmement large, donc des peintres hollandais, des peintres français, qui vont utiliser ce type de pigment pour rendre leur peinture d'aspect plus vieux. Et on a Théophile Gautier qui, dans un commentaire sur l'exposition universelle de 1855, donc, décrit également tout ce phénomène et donc dit que les gris tant reprochés à M. Ingres il y a quelques années ont disparu sous une belle teinte chaude et dorée. Donc je continue. Nous insistons là-dessus parce que les peintres actuels devancent sur leurs tableaux l'action du temps et simule la fumée des ans par des vernis jaunes et des glacis de bitume qui en compromettent l'avenir. L'éclat neuf d'une peinture fraîche est sans doute moins agréable, mais ses sacrifices à une harmonie temporaire peuvent devenir funestes. Donc là, on est en 1855, donc à une époque où tous les peintres vont vouloir utiliser ce type de matériaux en sous-couche, ou bien pour des glacis de surface, ou bien pour faire des jolies carnations avec les belles couleurs. Théophile Gautier, déjà, sait très bien qu'il existe toute une série de problèmes. On sait également, dans d'autres endroits en Europe, que ces matériaux causent énormément de troubles pour la peinture. Donc c'est le cas, je parlais d'autres zones en Europe, donc déjà le cas en Angleterre, et on se rend compte sur des tableaux de Reynolds, de problèmes de conservation qu'on attribue, notamment de jaunissement et du fait qu'il devenait sombre, à cette utilisation de bitume. Et certains ont décrit que des modifications profondes du style de certains peintres anglais, et notamment la confrérie des pré-raphaélites, est issue de ce constat que les peintres commencent à utiliser n'importe quel type de matériaux qui allait causer trop rapidement de très nombreux problèmes. Et c'est ainsi que les pré-raphaélites, en 1848, ont cherché à revenir à des pigments plus traditionnels. Donc c'est de ce type de matériaux que souffrent beaucoup de tableaux actuellement, dont le radeau de la Méduse de Géricault, dont ce tableau de Ingres. Donc vous avez un détail seulement, le compositeur Cherubini, on ne le voit pas parce que je voulais vous montrer surtout le visage de la muse de la poésie lyrique, où en fait l'usage ou l'abus de ces bitumes a causé de profondes transformations, donc des noircissements très forts par la diffusion de ce bitume à travers la couche picturale dans le cas du radeau de la Méduse, des problèmes de séchage inextricables dans le cas du visage de cette muse. Vous voyez qu'il se forme un réseau de craquelures extrêmement profond, extrêmement large, qu'on appelle souvent peau de crocodile ou crapotine, et qui nuit énormément à l'observation de ce tableau. Donc c'est des choses qui sont intéressantes et qui sont un peu étudiées en ce moment, et on pense beaucoup que c'est le fait que les peintres ont utilisé des formulations assez compliquées de ces bitumes avec de l'huile rendue siccative avec de l'oxyde de plomb, mais produisant des réactions qui n'étaient pas du tout prévues et qui font qu'on a ce type de problème. Donc là aussi, on a des textes qui nous décrivent un petit peu comment ces bitumes étaient préparés. Vous avez un auteur, Lefort, en 1855, qui écrit un ouvrage sur la chimie des couleurs pour la peinture à l'eau et à l'huile, et qui dit que le bitume se réduit assez facilement en poudre, le commerce le livre en morceaux, en poudre, ou bien broyé à l'huile. Et donc après, les peintres en faisaient ce qu'ils voulaient, et ça donnait donc parfois des résultats qui ont tenu dans le temps, et puis parfois des résultats qui ne tiennent absolument pas dans le temps. Donc comme vous voyez ici, le bitume remonte en surface, et parfois on a également l'apparition de protubérances, donc de gonflement de la peinture qui explose à la surface, et tout cela parce que le bitume, en fait, c'est du pétrole, un ingrédient du pétrole qui ne sèche jamais, et donc qui va pouvoir diffuser tout tranquillement à travers les couches de matière picturale pour former ce type de dégradation au cours du temps. L'exemple suivant, le dernier exemple, c'est celui sur les pigments blancs, pour regarder un petit peu cette évolution des pigments blancs, et cette fois-ci plus le vieillissement de la peinture, mais le choix juste d'une couleur, omniprésente dans tous les tableaux, pour essayer de voir comment on peut s'en servir dans certains dossiers. Donc ces pigments blancs sont intéressants parce que l'industrie chimique a amené l'apparition de deux pigments blancs à partir de la fin du XVIIIe siècle, qui sont l'oxyde de zinc, enfin notamment l'oxyde de zinc et le blanc de titane. Donc l'oxyde, avant ces deux pigments blancs, il existait le blanc de plomb, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler plusieurs fois dans les cours. Ce qui est intéressant dans l'oxyde de zinc, c'est qu'il a commencé à être produit en 1780 et qu'il a commencé à être vendu aux peintres, mais il était très cher, ce qui fait qu'il n'a pas du tout intéressé les peintres à ce moment-là. Et en 1837, l'entreprise Winsor & Newton a commencé à utiliser cet oxyde de zinc pour en faire un produit pour les artistes en le rendant très opaque grâce à des techniques de recuit très particulières qu'ils avaient testées à l'aide du grand physicien chimiste Faraday, qui travaillait avec Winsor & Newton dans ses préparations de nouveaux pigments, et puis qu'ils ont également commercialisé sous un nom un peu évoquant le voyage, le nom de blanc de Chine, et qui a aussi beaucoup plu aux artistes. Donc on a eu plusieurs ingrédients, hein. Les artistes oubliaient que c'était du blanc de zinc, c'était du blanc de Chine, il était préparé différemment et rendu très opaque, et donc là vous avez le catalogue de 1865 de Winsor & Newton, donc le marchand de couleurs anglais, et vous voyez un petit flacon comme ça de ce Permanent Chinese White, donc en plus avec cette couleur blanche supposée pouvoir rester tout le temps parfaitement blanche de la même manière, ce qui est vrai d'ailleurs, c'est un pigment très stable. Donc là on a une histoire intéressante qui apparaît au 19e siècle et qui va nous donner un traceur historique pour l'une de ces couleurs blanches. Il n'apparaît qu'en 1837. Le deuxième pigment qui lui est associé au 20e siècle est le dioxyde de titane. Le dioxyde de titane qui est un pigment extrêmement important, extrêmement utilisé, et qui a été produit à partir de la fin de la Première Guerre mondiale. Donc c'est un pigment blanc qui a un très bon pouvoir couvrant, un très bel éclat, donc qui satisfait parfaitement les artistes, et qui existe sous une forme chimique qui est le dioxyde de titane, donc TiO2, mais sous deux organisations des atomes à l'intérieur du cristal, je vous le remontrerai dans un instant, qui sont le rutile et l'anatase. Donc ce dioxyde de titane peut exister sous forme de rutile et d'anatase. Il n'existe quasiment jamais à l'état pur dans la nature. Dans la nature, il est toujours associé à des oxydes de fer, ce qui fait qu'il est toujours soit jaune, soit rouge. On n'arrive pas à le trouver pur. Et donc l'idée a été de synthétiser pour en avoir un composé pur. Donc en 1918, vous avez une première production en Norvège d'un tel dioxyde de titane, donc sous forme d'anatase, et qui est associé à toute une série d'autres impuretés, donc de sulfate de barium, de sulfate de calcium, qui sont dues au processus même de synthèse. Puis en 1823-24, le blanc de titane pur sous forme d'anatase est fabriqué en France et est commercialisé. Puis après, en 1941, on va fabriquer aux États-Unis du rutile, donc l'autre forme de blanc de titane. Puis en 1946, l'importation de la technique arrivera en France. Puis en 1949, on se rend compte que cet oxyde de titane a de très belles propriétés comme pigment, mais qu'il est en même temps à l'origine de toute une série de problèmes de conservation des peintures, notamment ce qu'on appelle un phénomène de farinage du liant, donc le liant qui se désagrège, dû à des interactions et à un effet de réaction photochimique entre le dioxyde de titane et le liant. Et donc pour remédier à ça, on va l'enrober à l'intérieur de composés d'alumine, donc d'oxyde d'aluminium ou de silice, d'oxyde de silicium. Donc vous voyez, cette petite évolution va faire qu'un oxyde de titane, d'une nature ou d'une autre, on va pouvoir le classer dans la chronologie du XXe siècle relativement facilement. Et donc aujourd'hui, on peut le voir dans un très grand nombre de matériaux, puisqu'il est utilisé pour de nombreux domaines de l'industrie. Un petit peu de technologie sur ces façons de fabriquer ces pigments. Je vous ai dit qu'après la Première Guerre mondiale, on arrive à fabriquer de l'anatase. À partir de la Seconde Guerre mondiale, on arrive à fabriquer du rutile. En fait, c'est dû à deux procédés chimiques très différents qui sont utilisés, mais qui reposent toujours sur le même type de notion et le même type de technologie. L'idée, c'est de partir d'un minerai, je vais commencer par ce procédé, dit au sulfate, d'un minerai de titane, donc d'un composé naturel riche en titane, qui souvent a beaucoup de fer, comme je vous le disais, et donc qui est coloré, et le faire réagir avec de l'acide sulfurique. Vous le mettez ainsi en solution, et ensuite par toute une série d'étapes de purification, de précipitation, de filtrage, lavage, calcination, vous éliminez les impuretés et vous arrivez à fabriquer soit du rutile, soit de l'anatase. Donc les principales impuretés sont éliminées dès le début, ce sont les sulfates de fer, et puis après, dans les autres étapes, on va rééliminer encore d'autres impuretés, ce qui fait qu'à l'arrivée, on a de l'oxyde de titane pur. La technologie fait que si on met un peu de rutile dans la solution au niveau d'ici de lavage, on va fabriquer du rutile à l'arrivée. Si on ne met pas de rutile, c'est de l'anatase qu'on va fabriquer à l'arrivée. Donc l'industriel va avoir ce procédé qui va très bien marcher et qui lui permettra de fabriquer les deux ingrédients. Puis un autre procédé dit au chlore, qui sera à peu près la même chose, où on va chauffer, brûler des minerais de titane avec un composé de chlore, du carbone, et puis de nouveau faire une série de réactions. Et ce procédé dit procédé au chlore, lui, ne permettra de fabriquer que la phase rutile. Il est impossible de fabriquer la phase anatase par ce type de procédé. Donc là, vous avez des ingrédients technologiques liés à l'industrie de la chimie, hein, avec des usines derrière qui produisent ces matériaux en grande quantité. Donc, si vous voulez, le rutile et l'anatase, ce sont deux formes cristallines différentes du dioxyde de titane. C'est-à-dire que les atomes ne sont pas arrangés de la même manière à l'intérieur du cristal. Mais pour vous montrer l'importance de ce type de matériaux, en 2003, il y avait 4,6 millions de tonnes de pigments de TiO2 qui ont été produits dans le monde. 4,6 millions de tonnes. et 95% de ces 4,6 millions de tonnes ont été utilisées pour les peintures, les plastiques, les caoutchoucs et l'industrie du papier. Nos beaux papiers blancs sont rendus plus blancs grâce à l'oxyde de titane. Les pigments d'intérieur, hein, sans doute pas les pigments pour artistes, sont un marché important. Tous les plastiques blancs également sont en général teintés par ce dioxyde de titane. Donc c'est un pigment qui a une importance majeure dans l'industrie chimique du XXe siècle et grâce à ses propriétés très particulières et grâce à une propriété tout à fait exceptionnelle pour un pigment blanc, qui est son indice de réfraction et donc qui est sa capacité à interagir avec la lumière. Et donc vous voyez, cette valeur ici pour le rutile est de 2,7, pour l'anatase de 2,5. L'oxyde de zinc, ce n'est que 2. La calcite, le calcaire, ce n'est que 1,6. Et en fait, plus cette valeur est haute, plus le pigment pourra diffuser la lumière et donc plus le pigment permettra d'avoir un aspect blanc, intense et lumineux, ce qui sera donc le cas tout particulièrement pour le rutile, un peu moins pour l'anatase. Donc ça, c'est l'indice de réfraction qui vous permet d'avoir cette donnée et qui montre l'intérêt de ce type de produit. Mais on peut regarder aussi ce que l'industrie chimique nous offre comme type de grain lors de ces synthèses. Et là, vous avez des observations, microscope électronique à balayage, de particules de rutile, telles que vous les voyez ici. Et donc, vous voyez l'échelle ici est de 300 nanomètres, donc pour, en allant du début là, de cette zone-là jusqu'au bord. Donc, vous avez des grains de cette taille-là. Ici, c'est peut-être un agglomérat 2. Vous en avez d'autres derrière. Ici, vous avez une autre image, 500 nanomètres, l'échelle, hein, donc 0,5 micromètres. Et donc, vous voyez ces grains, un petit peu ovoïdes également, et qui correspondent donc, à ces grains de rutile. Donc, on se rend compte, si on prend ce type de poudre et qu'on utilise des méthodes de granulométrie, que les procédés industriels utilisés pour fabriquer ce pigment conduisent à la formation de grains de rutile ou d'anatase de très petites dimensions. Donc là, dans un article qui est celui de Nolan, ils ont analysé la taille des grains de dioxyde de titane de différents industriels, notamment Dupont, Fischer, Aldrich. Et vous voyez ici, la plupart des grains ont des tailles inférieures à 0,5 micromètres, ce qui est une taille extrêmement petite, et c'est une taille qui est très intéressante pour avoir un matériau qui disperse particulièrement bien la lumière et qui interagit également avec la lumière par des phénomènes de diffraction. Donc c'est là aussi, le procédé de synthèse va permettre d'avoir ces tailles de grains qui sont conçues pour faire un pigment de très bonne qualité. Ces pigments de très bonne qualité peuvent être évalués en regardant par différents types d'expériences leurs propriétés. Donc si on regarde le graphique du dessus, ici vous avez une expérience où on va regarder la manière dont la lumière est réfléchie par un film composé de dioxyde de titane. Et donc dioxyde de titane sous forme de rutile pour la courbe rouge, sous forme d'anatase pour la courbe bleue, et vous avez ici les longueurs d'onde. Donc le domaine du visible, il va de 400 à peu près 700, et vous voyez que dans ce domaine du visible, vous avez autant l'anatase que le rutile qui réfléchit la lumière, quelle que soit sa longueur d'onde, à peu près totalement, à 100%, telle que l'expérience a été montée. Vous pouvez remarquer également que le rutile ici ne réfléchira pas du tout l'ultraviolet, ce qui sera le cas de l'anatase. Leur composition, leur organisation des atomes dans la matière n'est pas la même, et donc ils ne réagiront pas tout à fait pareil dans le domaine de l'ultraviolet. C'est intéressant puisque ces oxydes de titane sont aussi utilisés dans les crèmes solaires, ou étaient aussi utilisés dans les crèmes solaires, et c'est la forme anatase qui réfléchit les ultraviolets, donc qui protège mieux notre peau. Donc là, vous voyez, c'est dans le domaine visible un plateau quasiment à 100%, c'est-à-dire c'est un magnifique pigment blanc de très bonne qualité qui réfléchit parfaitement la lumière, et donc qui, pour les artistes, est particulièrement intéressant. L'adaptation des technologies chimiques à la synthèse des grains est aussi importante et montrable, démontrable dans son intérêt par ce type de graphique où les industriels vont fabriquer des grains de dioxyde de titane de différentes tailles. Donc là, on est à 0,1 micromètre, là, on est à 0,2, 0,3 micromètre, 0,8 micromètre. Et quand vous regardez la diffusion de la lumière bleue, verte ou rouge par ces grains-là, vous vous rendez compte que vous avez des formes de diffusion qui sont compliquées puisque la lumière va interagir directement avec les particules, mais que quand vous vous mettez à une taille de vers 0,2, 0,3 microns, les trois domaines rouge, vert et bleu réfléchissent de la même manière, très fortement, et donc vous avez une très belle lumière blanche qui va être réfléchie. Si vous descendez un peu plus en taille, vous allez avoir une lumière bleue qui va être davantage réfléchie. Donc en choisissant des tailles de particules vers 250-300 nanomètres, en fait l'industrie a fabriqué exactement la bonne taille de grain pour avoir les meilleures propriétés optiques possibles pour ce pigment. Donc tout ça n'est pas dû au hasard, n'est pas dû à une série de synthèses accidentelles. C'est vraiment une volonté délibérée d'obtenir le meilleur pigment possible et qu'on peut suivre par ces différentes courbes alors qu'ils sont issues d'un catalogue de démonstration des propriétés du dioxyde de titane fait par l'entreprise Dupont de Nemours. Au niveau de l'expertise, ça a été utilisé dans différents cas, notamment ici dans cette carte dite du Vinland, qui est une carte conservée à l'université de Yale et achetée par l'université dans les années 50 et qui est censée représenter le monde tel qu'il était connu avant la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Donc il serait une carte du début du XVe siècle, et vous voyez l'Europe, vous voyez le nord de l'Afrique, vous voyez un peu l'Asie, et puis vous voyez le Groenland ici, et puis vous voyez le début de l'Amérique, et qui démontrerait que des gens ont su cartographier le Nouveau Monde avant que Christophe Colomb ne le découvre. Donc c'est une carte qui a passionné tout le monde et qui a fait l'objet de beaucoup d'expertises pour tenter de savoir si elle était authentique ou si c'était un faux. Donc ce type d'expertise ici, donc on n'est plus dans la peinture, mais on est dans le dessin, va consister d'abord à dater le parchemin. Donc ce parchemin, on peut en prélever un petit morceau, faire une datation par la méthode du carbone 14, et qui permet de dire que le parchemin date, date de la première moitié du XVe siècle. Donc il est bien d'époque médiévale, il est bien antérieur à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Donc on est sur un parchemin ancien, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais l'encre pose des problèmes et a été étudiée à différentes reprises à partir de 1974 par différents chimistes qui n'ont pas toujours abouti aux mêmes conclusions. Si je vous fais la synthèse qui est la plus claire et à mon avis qui est la seule à peu près juste et qui s'est confirmée par les analyses les plus récentes, et la synthèse des analyses de ces traits dont vous avez ici un détail, où vous voyez apparaître des petites taches noires qui correspondent à l'encre noire, et puis vous voyez apparaître du brun qui correspond à un phénomène très classique de vieillissement d'un dessin fait à l'encre métallogallique à ces époques-là, et telle qui peut vieillir au cours du temps suite à l'interaction entre l'encre qui était utilisée et puis le parchemin lui-même. Mais quand les analyses sont faites, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que l'encre noire ici est constituée de noir de carbone, et donc n'est pas l'encre métallogallique classique sur ce type de manuscrit, et puis on voit que dans toute cette partie jaune, est présent une très grande quantité de dioxyde de titane. Donc de dioxyde de titane qui a été identifié sous forme d'anatase et de dioxyde de titane qui a été observé, là vous voyez notamment des grains de dioxyde de titane ici, vus par microscopie électronique à transmission et qui a été observé sous forme de grains très petits de l'ordre de 0,2 micromètres, donc exactement la dimension dont je vous parlais tout à l'heure et qui correspond exactement au processus industriel de synthèse de l'anatase comme pigment blanc tel qu'on peut le voir à partir de 1920 ou de 1930. Donc c'est la preuve absolue que ce tracé jaune est un faux et n'est pas du tout un vrai. Et donc que le faussaire a cherché à créer un vieillissement de son œuvre en déposant cette ligne jaune, en rajoutant un petit peu d'encre à la surface, de façon à faire un très joli faux, et qui a donc fait l'objet de différentes études pour arriver à ce constat. Et vous avez différents sites, vous avez notamment ce site que j'ai référencé ici, qui vous rassemble l'ensemble des informations qui ont été obtenues sur cette carte du Vinland dans un but pédagogique et extrêmement pratique d'ailleurs pour les enseignants, pour leur montrer comment on peut faire ce type de démarche associant histoire et analyse chimique d'œuvres anciennes. Donc ce même dossier oxyde de titane a été très important dans une des très grandes affaires de faussaires de ces dernières années, qui est l'affaire Wolfgang Beltracchi, donc un faussaire allemand qui a été accusé d'avoir imité un grand nombre de tableaux, donc peut-être d'une cinquantaine de peintres différents. Il en a avoué certaines d'entre elles seulement, et qui s'est fait arrêter ou qui s'est fait débusquer, enfin les deux à la fois d'ailleurs, suite à la vente d'un tableau, donc de ce tableau, attribué par les experts à Heinrich Campendon, qui est supposé peint en 1914, donc vendu pour 2,9 millions d'euros. Et l'acquéreur a demandé une analyse chimique après avoir acheté ce tableau et s'est rendu compte que ce tableau contenait fréquemment, en quantité, du blanc de titane. Et donc 1914, on est avant le début de la synthèse du blanc de titane, donc ça ne pouvait pas être un tableau d'origine de Campendon. Et donc ça a permis de lancer toute une procédure policière et judiciaire qui a permis de révéler tout un trafic. Ce qui est intéressant de nouveau, et de la même manière que Van Meegeren a cherché à faire un lien de façon à ce que son tableau de Vermeer apparaisse vieux, Wolfgang Beltracchi avait aussi connaissance des pigments qui étaient utilisés à son époque, à l'époque présumée de réalisation des tableaux, et a fait normalement toujours très attention aux différents pigments qu'il pouvait employer. Donc Campendon aurait dû utiliser de l'oxyde de zinc. Donc Beltracchi aurait dû utiliser de l'oxyde de zinc. Et donc là, il a dit dans une interview qu'il a fait dans un journal, « J'avais toujours employé du blanc de zinc, très courant à l'époque de Campendon. Et en règle générale, je faisais toujours mes mélanges moi-même. Mais il me manquait des pigments, alors j'ai utilisé du blanc de zinc en tube sur lequel il n'était pas indiqué qu'il contenait également un peu de blanc de titane. On m'a découvert uniquement à cause d'un tube mal étiqueté. » Vous voyez de nouveau tous les enjeux et toutes les difficultés qui peuvent exister dans ce type de cas et dans ce type d'expertise. J'insiste pas plus sur le nombre de dossiers de faux tableaux qui ont pu être débusqués par cet oxyde de titane ou de polémiques liées à l'attribution d'une œuvre à un artiste du XXe siècle ou non, parce qu'il y avait de cet oxyde de titane. Il y a énormément de dossiers actuellement en cours et de dossiers ces dernières années où cet élément est paru comme l'élément magique de détection des faux dans la peinture. C'est vrai, ça marche particulièrement bien parce que ce pigment est bien connu dans l'histoire. mais je vous ai parlé d'autres types d'exemples, notamment dans le premier cours, d'inventions, de différents types de pigments au cours des âges, qui font qu'en fait, on a toute une série de marqueurs chronologiques qui peuvent être utilisés, il n'y a pas que cet oxyde de titane, et qui permettent à chaque période de l'histoire d'avoir des éléments chimiques caractéristiques de pigments, des impuretés caractéristiques de pigments, qui permettent de montrer si on est en présence de la matière qui devait être utilisée ou bien en présence d'autres choses. Donc pour conclure, je voudrais dire que donc, déterminer qu'une œuvre est fausse est possible, je veux dire même parfois facile, par ces approches d'analyse chimique ou par cette imagerie scientifique également dans certains cas. Parce qu'il y a des pigments qui ne devraient pas y être, parce qu'il y a des liants qui ne sont pas habituels, la bakélite, l'oxyde de titane, parce que la date du support en bois n'est pas bonne, parce que, là je ne suis pas revenu là-dessus cette fois-ci, mais j'en ai beaucoup parlé la dernière fois, certains pigments ne sont pas altérés alors qu'ils auraient dû l'être. Et donc là aussi, on a toute une série de vecteurs nous permettant de comprendre si un tableau a vieilli naturellement ou pas. Ensuite, dans certains cas, donc on peut déterminer qu'une œuvre est fausse. On peut faire un lien entre une œuvre et un faussaire quand on connaît une technique particulière d'un faussaire. Et les faussaires ont besoin de rendre leur œuvre ancienne très rapidement. Van Meegeren avec son liant, on peut se dire qu'on est capable d'attribuer un tableau à Van Meegeren parce que pas beaucoup d'artistes ont eu cette idée de faire cuire de la bakélite au four et de la passer sous un rouleau pour la craqueler de la même manière que Van Meegeren. Ensuite, faire un lien entre une œuvre avec des œuvres authentiques est possible aussi. Je vous l'ai montré par l'étude de la toile, par l'imagerie scientifique, des repentirs, des détails de dessin, des pratiques techniques rares comme le verpilé, etc. Donc on a toute une série d'éléments qui rendent finalement la contribution de ces analyses chimiques intéressante dans le cadre de l'attribution d'une œuvre à un artiste. Mais bon, si tout ça est possible, ces approches sont aussi rendues plus faciles à mettre en œuvre aujourd'hui grâce aux nouvelles techniques d'analyse et notamment aux méthodes portables dont je vous ai parlé, mais ce ne sont pas du tout des approches qui permettent de dire si l'œuvre est réellement attribuable à un artiste. Ça donne un faisceau d'éléments disant ça va bien avec cet artiste, mais ça ne permet jamais, et donc ce sont toujours des approches qui sont complémentaires de celles de l'historien de l'art, de l'expert, de l'esthète, du connaisseur. On peut utiliser le mot que l'on veut quand on va faire ce type de démarche. Donc j'insiste toujours là-dessus parce qu'il ne faut absolument pas croire que l'analyse chimique permet d'attribuer à un artiste. Ça permet plutôt de dire que c'est un faux, ce qui est dommage, parce que parfois on aimerait bien aller plus loin dans les interprétations. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Alors avant de vous présenter l'invité pour le séminaire, je voudrais vous montrer, je vous ai parlé la dernière fois de deux conférences supplémentaires dans le cadre de ma chaire que je ferai au mois de juin prochain. Je vais essayer d'arriver au bon. Voilà, donc je vous ai rapidement donné les dates la dernière fois. Donc il s'agit de deux conférences particulières qui n'auront pas lieu dans cet auditorium, mais dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre, où des œuvres viendront et où je ferai un cours en collaboration avec avec une collègue pour essayer de décrypter les enjeux d'une œuvre, donc, que je présente donc comme une sorte de travaux pratiques pour essayer de regarder à plusieurs, de manière interdisciplinaire, une œuvre et en tirer une série d'informations sur le rôle des analyses scientifiques et sur l'importance de la technique pour décoder certains aspects liés à la création. Donc le premier aura lieu le 10 juin à 17h30, donc la céramique et la mémoire des couleurs de Raphaël, donc avec Véronique Miland de la cité de la céramique à Sèvres, autour d'une œuvre qui est une copie d'une œuvre de Raphaël, de la Sainte Famille de Raphaël, faite sur une plaque de porcelaine dure. Et donc on regardera tout ce que ça signifie et les enjeux. Vous signalez que cette conférence est associée à une visite guidée des ateliers de production de porcelaine de Sèvres et de rencontres avec les chimistes et les peintres de la manufacture de Sèvres. Cette visite, ce sera le 12 juin au matin, et les inscriptions, parce que le nombre d'inscrits est très limité, les inscriptions seront ouvertes aujourd'hui à 14h. Donc il y aura sur la page web de ma chaire une petite rubrique où vous pourrez vous inscrire. Et la deuxième manifestation ici au Collège de France sera le 24 juin, je crois à 14h ou à 14h30, et donc sur un trésor d'orfèvrerie visigoth, où donc on regardera avec ma collègue Isabelle Bardiès-Fronti du musée de Cluny comment étudier notamment ce type d'objets de parure incrustés et qu'est-ce que ça nous apporte sur les savoirs, les pratiques et les diffusions de savoirs à l'époque mérovingienne à travers l'Europe. Donc voilà, c'était les deux annonces qui n'avaient pas encore été faites, et je crois que vous aurez des petits flyers à la sortie du cours tout à l'heure. Donc je vais vous présenter maintenant l'invité aujourd'hui pour compléter ce cours. Donc je suis très content, très honoré aussi d'avoir aujourd'hui Tristan Azzi, qui vient pour ce séminaire, donc, qui est professeur de droit privé à l'Université Paris-Descartes, agrégé de droit, Donc cette fois-ci, c'est un juriste que je vous ai invité. Et il enseigne notamment le droit de la propriété intellectuelle, le droit international privé, le droit de l'arbitrage. Et donc il s'est intéressé beaucoup aux problèmes de droit d'auteur. Et puis il s'intéresse également à certains aspects liés aux œuvres d'art. Donc Tristan Azzi est également responsable d'un master de droit à Paris-Descartes et de droit et de juriste d'affaires international. Il est membre du Conseil national des universités. Bon, je ne vais pas faire tous les autres titres. Et sa conférence, qui sera donc dans une minute, à peu près une ou deux minutes, le temps qu'on change, sera sur l'expertise des œuvres d'art et analyse scientifique, approche juridique. Voilà, merci à vous.